Radio Germaine.
Popcorn, l'émission pour savourer le cinéma.
Saison 15.
Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 16 de Popcorn sucré. On est de retour en studio enfin. Moi c'est Alix et je suis avec Pauline.
Bonjour.
Avec Clara.
Salut.
Et avec Pauline.
Bonjour.
Et sans plus tarder, on peut passer à nos chroniques de la semaine si tu veux, Pauline, commencer.
Allez, ça part. Du coup, moi je vais parler d'un film des années 60 qui ressort en salle en fait, qui est un film de Michael Powell, qui est donc sorti en 1960 pile, qui a été réédité en fait en 4K actuellement, ça s'appelle Le Voyeur, alors Peeping Tom en anglais, et ça repasse au Champeau actuellement, donc c'est un film à voir en salle dans les semaines qui arrivent, ça fait 2 semaines que c'est en salle et ça risque de rester pendant quelques temps. Donc en fait c'est un des premiers slashers. Donc qu'est-ce qu'un slasher ? Ça vient de couper, taillader, sabrer en anglais. Et c'est un sous-genre cinématographique du film d'horreur. Donc en fait c'est un terme qui est utilisé depuis les années 70. Avant, la presse française parlait plutôt de psycho-killer movie, donc vraiment un film de tueur psychopathe. Et ce film-là fait partie de cette catégorie, donc ça date des années 60 et c'est sorti en même temps qu'un film d'Alfred Hitchcock ultra connu, Psychose. Et du coup, les deux films sont sortis au bon moment, alors que Psychose est un succès public, critique, dans tous les sens du terme, enfin, vraiment il marche très bien. Le Voyeur de Michael Powell est vraiment décrié justement par cette critique-là, parce que considéré comme beaucoup trop violent. Globalement c'est ultra intéressant je pense de mettre les deux films de les comparer, parce que globalement dans le premier de Hitchcock on a Norman Bates qui est sous l'influence de sa mère, donc qui est un tueur psychopathe aussi, et dans le film dont je vais parler aujourd'hui on a le personnage principal qui s'appelle Mark Lewis qui est globalement lui aussi un tueur mais obsédé des images et qui est sous l'influence d'un père qui est scientifique et qui a fait des expériences sur lui. Globalement il l'a filmé dans plein de situations de son enfance et a transmis cette obsession de l'image et du cinéma en général. Donc c'est un film qui ressort justement en version toute restaurée. La restauration a été faite par la British Film Institute, BFI, à Londres, et la Film Foundation, donc c'est une association gérée par Martin Scorsese. Voilà, c'est un des films préférés de Martin Scorsese. Faut que j'arrête, mais au bout d'un moment, ça fait un an que je suis sur le sujet, mais globalement, non, en fait, c'est surtout parce que son asso réédite des films, et souvent, que ce soit à Cannes Classique ou autre, ressort des films qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre et qui sont retraités à l'image. Donc globalement c'est sorti dans un coffret collector avec pas mal de suppléments d'interviews et de bonus, donc c'est assez intéressant. Et globalement à l'époque ça marque la fin de carrière de son réalisateur, parce que c'est un film qui vient sur un sujet où c'est ultra mortuaire, où en fait le personnage est globalement un des plus violents du cinéma à l'époque. Et pour faire rapide, c'est un film qui est sur le cinéma, sur la position de voyeur, d'où le titre. Mark Lewis est en fait un assistant caméra dans un studio londonien et un photographe à ses heures perdues, et est obsédé par l'image et a envie de filmer les personnes juste avant qu'elles meurent en les tuant. Il veut filmer littéralement la frayeur sur les visages des gens. Donc globalement c'est un film qui est assez intéressant parce que c'est une curiosité cinématographique, ça parle en fait du cinéma en sous-texte évidemment, c'est assez symbolique pour plein de points, enfin, c'est assez transparent au niveau de la construction des plans, ça commence avec un gros plan sur un œil, globalement on est sur quelque chose de très parlant avec une caméra subjective qui nous met à la place du tueur justement et qui nous fait voir ce qu'il est en train de filmer. On a une colorimétrie rouge qui est vraiment dans la violence et qui est très parlante là aussi. C'est un film qui n'est pas en Technicolor, mais qui est du coup filmé à la caméra Kodak. Donc c'est intéressant parce que justement, il y a un côté très sale à l'image qui ressort très bien justement dans la restauration. C'est à l'Eastman Color, pour être assez précise. Et globalement, c'est une mise en abîme qui va être super dérangeante parce qu'on va s'identifier... le réalisateur plutôt s'identifie à ce personnage principal qui est ultra ambigu, ultra bizarre, parce que globalement ça va être une obsession de cette mort et de cette quasi-sexualisation de la caméra et de son obsession sur l'image, donc c'est assez intéressant. D'ailleurs il y a une référence qui est assez évidente aux couleurs de néon justement des films un peu porno ou de toute cette ambiance là à Londres, dans cette société qu'on voit pas souvent. Et globalement, c'est un film qui a dérangé parce que le personnage principal, enfin le cinéaste ne porte pas de jugement sur le personnage principal. C'est-à-dire qu'il ne va pas condamner explicitement ses actes, qui sont quand même ultra condamnables. Mais justement parce qu'il va utiliser un acteur qu'on a vu dans Sissi, enfin l'acteur qui joue le prince Franz dans Sissi, qui est un acteur blond, yeux bleus, globalement très angélique, quoi. Très pur, voilà, dans sa manière de jouer aussi, assez pudique. Et en fait, il va montrer que cet homme-là en arrive à ce stade-là parce qu'il y a une justification semi-freudienne. C'est quand même un film assez psychologique parce qu'en fait, il aurait subi de la violence de la part de son père. Donc globalement, c'est un film riche, c'est foisonnant de références. Après, j'ai trouvé ça parfois un peu trop intellectualisé. C'est-à-dire qu'on sent que c'est un grand film, que c'est un film qui finalement n'a pas marché à sa sortie mais qui a été ressorti par Scorsese en 70 et qui est là à inspirer des générations de cinéastes. On a Antonioni qui va faire le blow-up après, dans les années 60, à la fin des années 60, dans ce film-là, enfin, dans la lignée de ce film. Mais j'ai trouvé ça incroyable et expressif et parfois baroque, peut-être parfois un peu trop, mais c'est un bijou de cinéma à analyser. Et en fait, on prend énormément de plaisir à se repasser pas mal de scènes parce que analytiquement parlant, c'est très intéressant. Donc voilà, pour ce film-là.
Ok, super. Bon, merci beaucoup, Pauline. Clara, je ne sais pas si tu veux continuer.
Alors moi, du coup, j'ai été voir Il reste encore demain. Donc c'est le premier film de la réalisatrice italienne Paola Cortellesi, qui est très connue parce qu'elle a fait plein d'autres métiers. Elle a été actrice, elle est humoriste, elle a joué au théâtre, elle a été metteuse en scène, elle a fait vraiment elle a plein de casquettes. Et il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès en Italie. On en a entendu parler énormément là-bas parce qu'il a fait plus d'entrées que Barbie et Oppenheimer. Et en fait, on explique un peu ce succès, notamment parce que le sujet parle des violences qui sont faites aux femmes. Et en fait, la sortie du film en Italie, donc c'était en octobre 2023, c'est à peu près en même temps qu'un féminicide qui a eu lieu, du coup, qui concerne donc une jeune femme qui a été tuée par son ancien compagnon. Et donc ça a fait une énorme couverture médiatique puisque du coup les deux événements étaient un peu corrélés. Donc on en a beaucoup beaucoup parlé là-bas et le film a eu beaucoup beaucoup de succès, il a été très reconnu et il est sorti donc dernièrement en France, donc du coup je suis allée le voir. Et donc on suit l'histoire de Delia au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans un quartier populaire de Rome. Donc elle est mère de 3 enfants et elle est battue très régulièrement par son mari. Et en fait elle subit plein d'humiliations au quotidien, que ce soit morale ou du coup des coups, enfin des blessures. Elle travaille énormément pour essayer de nourrir sa famille et elle voit tout son argent être volé par son... enfin volé. Être pris par son mari qui ne lui laisse absolument aucun argent, aucun espace pour elle-même. Donc elle est profondément dépersonnalisée au sein de cette famille où en fait elle fait tout pour tout le monde mais où tout le monde lui crache un peu à la figure. Elle a une relation très, très compliquée avec sa fille parce qu'elle se dédie énormément à sa fille. Elle lui donne beaucoup, on voit qu'elle lui porte vraiment énormément d'attention. Sa fille, elle va bientôt se marier. Elle a une relation avec un jeune garçon du quartier qui est réputé comme étant assez riche. Donc voilà, donc on les envie beaucoup, c'est un joli couple, ils sont très mignons. Et là, elle donne vraiment tout pour sa fille, mais sa fille, en retour, est très agressive avec elle parce qu'elle reproche à sa mère de trop se laisser faire face à son père, du coup, qui l'humilie au quotidien. Et donc voilà, donc elle évolue dans un contexte assez compliqué où on voit qu'elle s'illustre dans une Italie qui est encore dans la misère à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où tout le monde galère un peu et où tout le monde essaye de faire en sorte de paraître le moins... miséreux, on va dire, dans un quartier où tout le monde se compare un peu et où tout le monde parle un peu sur tout le monde, on va dire, même s'il y a tout ça prend place sur un espèce de fond de bienveillance qui est quand même assez touchant à voir. Donc c'est un film qui est tragicomique et qui est filmé dans un format assez original, on va dire, puisque du coup il est filmé en noir et blanc et au format carré, donc il essaye un peu de reprendre les codes esthétiques des vieux films italiens. Et donc le film est construit de manière assez fantaisiste parce que les scènes de violence sont représentées sous forme de chorégraphie. Donc ça contraste de manière assez ironique avec le drame qui est raconté dans le film. Donc il n'y a pas que les scènes de violence d'ailleurs qui contrastent avec les sujets abordés dans le film parce que le film est ponctué de touches d'humour assez régulièrement qui visent un peu selon moi à tourner en dérision les hommes qui sont représentés dans le film. On essaie un peu de leur donner un aspect très ridicule et pas du tout impressionnant. Je veux dire, ils sont pas du tout représentés comme des espèces de prédateurs, même s'ils font énormément de mal aux femmes en général dans le film. Enfin, en fait, on a envie de se moquer d'eux. Je veux dire, ils sont débiles, quoi. Je veux dire, on les voit, on se dit, mais waouh, mais t'es nul. Enfin, je veux dire, t'es complètement ridicule, mon pauvre. Enfin, je sais pas, fais quelque chose, quoi. Mais là, t'es juste ridicule. T'as absolument aucun... on n'a pas du tout envie de te respecter ou quoi que ce soit. Et en fait, la violence que tu montres à l'égard des femmes montre plutôt une insécurité profonde que tu ressens au plus profond de toi-même. Donc, on va dire que c'était assez plaisant à regarder sur ce point de vue-là. Je trouvais que le film était assez agréable à regarder parce qu'il est bien rythmé. Enfin, il dure quand même 2 heures. Moi, je sais que je ne me suis pas ennuyée. J'entendais pas mal de gens rire dans la salle. Moi, j'ai bien rigolé quand même. Enfin, j'ai passé un bon moment. Il est très léger. Et comme je le disais, il y a vraiment une ambiance qui contraste, je trouve, avec la gravité des sujets qui sont évoqués. Parce que Delia, du coup, le personnage principal, est représenté un peu sous une certaine naïveté à certains moments. Enfin, je veux dire, il y a des moments, on sent que la réalisatrice a vraiment voulu représenter son personnage comme... parce que du coup, c'est elle qui joue dedans. On a vraiment l'impression qu'elle a voulu se représenter un peu parfois comme une petite fille. Mmh. Parfois, elle est avec sa meilleure amie. Je sais pas, elle fume des cigarettes en secret ou en balançant ses jambes sur un banc. Enfin, je sais pas, ça donne vraiment un aspect très très enfantin qui du coup contraste vraiment avec la dureté de la vie de cette femme quoi, qui a vraiment une vie très très dure. Mmh. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant à voir. Voilà, comme je le dis, j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé le regarder. Après, je pense que j'avais énormément d'attentes en allant voir le film, parce que comme je disais, il a fait énormément de bruit. Moi, je sais que j'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler. Ouais. Il y a eu énormément d'articles qui sont sortis qui disaient, voilà, le nouveau film qui parle des violences faites aux femmes. Allez le voir, il est vraiment surprenant, choquant. Enfin, alors du coup, comme je disais, il est très surprenant. Il y a pas mal de plot twists, on va dire. Mais j'ai trouvé qu'il était quand même assez gentillet. Enfin, je veux dire, j'ai pas été particulièrement... j'ai pas été vraiment prise aux tripes par la situation qui était illustrée dans le film. Je ne suis pas sortie en étant complètement retournée par le sujet, quoi. Donc, c'est un film qui est agréable à voir, qui, en plus, aborde plein de sujets parce que, comme je disais, il se place dans un contexte historique assez intéressant. On est à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, donc on voit un peu le contexte économique et social qui prend place en Italie à la sortie de la guerre. On voit que les gens, voilà, essaient tous... Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti le côté... de comparaison que les gens ont instauré un peu entre lui, il a fait ça pendant la guerre, lui il s'est battu, lui il a dénoncé machin aux nazis, enfin voilà, il y avait tout un truc qui se plaçait pas mal et qui tombait assez bien, je trouve, dans le contexte historique que la réalisatrice tentait d'instaurer dans le film. Donc moi je le conseillerais parce que il est sympa à voir, il est assez mignon, c'est le terme que j'emploierais en fait, il est mignon, c'est un film qui est mignon. Je pense que comme je le disais, sur le point de vue vraiment dénonciateur, sur certains aspects, il tombe un peu à plat. Mais il fait quand même plaisir à voir. Il est sympa, il est léger et il permet de passer un bon moment. Donc, je vous le conseillerais quand même parce que c'est intéressant à voir.
Bah, merci. Enfin, moi, quand tu me parlais d'un film italien qui traite des violences faites aux femmes, moi, je pensais surtout, ça m'a fait trop penser à Malena avec Monica Bellucci. Oui. Je ne sais pas si vous... Et là, pour le coup, c'est pas mignon.
Non, c'est pas mignon du tout. Ouais, c'est chelou, c'est vraiment chelou.
Ça met vraiment mal à l'aise. Ouais. Et je crois que c'est à peu près le même contexte aussi, non?
À peu près, oui.
Contexte de guerre, je sais pas
à peu près, ouais.
Exactement à quelle époque, période. Mais oui, c'est là, pour le coup, c'est...
Pour le coup, là, le film, il est... Enfin, après, c'est peut-être moi, hein, mais je l'ai pas trouvé dérangeant. Je veux dire, oui, quand on regarde, on n'est pas mal à l'aise, on n'est pas vraiment... Enfin, il n'y a pas une ambiance étrange autour de... Enfin, à part le fait que les scènes de violence soient représentées sous forme de chorégraphie,
okay, ouais.
Ce qui peut du coup un peu surprendre. Mais moi, j'ai trouvé que ça donnait un peu un aspect de campagne de sensibilisation sur les violences faites aux femmes. C'est un peu comme si, je sais pas, vous voyez un peu les clips qui sont faits vraiment de sensibilisation, qui sont en noir et blanc, et en fait, on essaye de représenter la violence sous une forme un peu différente pour essayer de communiquer aux gens un message. Bah là, j'ai trouvé que c'était un peu plutôt dans ces tonalités-là, quoi. Ça fait vachement campagne de sensibilisation. Donc c'est sympa à voir, mais ça fait quand même campagne de sensibilisation au fond, quoi. Je veux dire, ça tombe un peu comme une pub contre les violences faites aux femmes. Mais c'est intéressant.
Okay.
Mais voilà, moi c'est pas exactement le but que je pense que je recherchais quand je suis allée voir le film.
Oui, c'est ça, c'est vraiment un film qui nous vend les violences faites aux femmes, c'est pas bien, mais on va pas vraiment traiter du sujet, en fait on va vous faire rire. Parce qu'en fait c'est plus, je pense, faut le prendre comme une comédie.
Oui.
Et je pense que ça aurait pu faire une très bonne comédie, et justement tous les éléments un petit peu dramatiques qui sont apportés, ils font un peu tomber le film à plat, genre typiquement tout ce qui se rapproche un peu du caractère romantique, la femme qui veut s'émanciper, qui sait pas, qui est déchirée, est-ce qu'elle va partir, est-ce qu'elle peut le faire et tout, ça fait vraiment tomber le film à plat et ça lui donne une prétention qu'il a pas et qu'il a pas à rechercher parce que c'est une très bonne comédie outre mesure, quoi.
Je suis complètement d'accord.
Bah, merci beaucoup pour vos analyses, les filles. Pauline, si tu veux continuer.
Oui, du coup, moi, je suis allée voir Les Délinquants, Los Delincuentes. J'aurais dû faire espagnol et pas allemand au collège, mais bon. Du coup, c'est le dernier film d'un réalisateur argentin, Rodrigo Moreno, qui a déjà quelques films à son actif, mais qui n'est pas très connu en France. Et d'ailleurs, ce film a été diffusé que dans quelques salles et il est presque dans plus aucune salle alors qu'il est sorti la semaine dernière, ce qui est très dommage. Ça raconte l'histoire d'un employé de banque argentin qui va voler quelques centaines de milliers de dollars dans la banque où il est employé et qui va les donner à son collègue pour que ce dernier les cache pendant que du coup, le premier qui les a volés va purger une peine de 3 ans et demi de prison. Et l'idée, c'est qu'à sa sortie de prison, ils se partagent tous les deux cet argent pour ne plus avoir à travailler de leur vie. Donc le personnage se dénonce à la police tout de suite après son vol. Et la tension narrative va centrer sur l'autre personnage qui, lui, est toujours employé dans la banque et qui a cet argent chez lui et qui, du coup, ne sait pas trop comment agir et essaye de ne pas se faire retrouver. Le film est découpé en deux parties de manière assez astucieuse, avec une première partie du coup qui plante le décor et qui se centre vraiment sur cette intrigue. Et la deuxième partie nous emmène dans complètement autre chose. On tombe dans un univers qui est assez bucolique, avec un caractère très contemplatif et poétique également, avec par exemple une scène magnifique dans la prison où ils lisent de la poésie et c'est filmé de manière sublime. Et la poésie est très très belle également et colle tout à fait au propos du film. La mise en scène également est sublime, la photographie est très soignée avec tout un travail sur la lumière qui est au départ très agressive et très artificielle, notamment dans la banque. Donc elle traduit vraiment un univers capitaliste un petit peu oppressant et assez désagréable. Et ensuite la lumière vient servir le caractère vraiment idyllique du décor de la deuxième partie. Avec tout un jeu sur la lumière du soleil, des couchers de soleil, enfin voilà, un jeu sur la lumière du jour et les grands espaces. La force du film, elle se situe selon moi vraiment dans sa capacité à nous surprendre. On a des effets de miroir, on a des répétitions à visée plutôt comique, mais le film parvient vraiment à se renouveler tout le long et à nous cueillir là où on ne l'attend pas, avec une maîtrise du rythme assez impressionnante pour un film de 3h10, qu'on sent vraiment pas passer, enfin je me suis pas ennuyée. Ce qui commence donc comme un thriller un petit peu bas de gamme, j'avoue que le plot ne donne pas spécialement envie. On a un peu l'impression qu'on va voir un film sur des employés de banque en pleine crise de la quarantaine, qui essayent de se rebeller, mais pas trop. Ça a l'air assez foireux au départ, mais en fait, c'est vraiment, ça devient vraiment un manifeste pour une forme de liberté, une critique qu'on n'attend pas forcément des structures économiques et sociales du monde capitaliste, avec un regard étonnamment jeune, un caractère presque un peu révolutionnaire, avec un côté un petit peu anarchiste dans la deuxième partie qui fait plaisir, et qui fait que le film n'est pas forcément là où on l'attend, nous sans pour autant tomber dans le film à thèse ou dans le film extrêmement militant. On reste quand même dans quelque chose de très esthétique, très beau et plutôt qui mobilise plus nos sensations que notre intellect, disons. Sinon, j'aimerais souligner que le propos est vraiment porté par la musique qui est très très belle et qui est super adaptée aux scènes, qui ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe. À l'inverse de dans Il reste encore demain, où pour le coup, la musique était catastrophique. c'est... Je viens de m'en souvenir, mais c'était vraiment... Wow. Non, là, on a vraiment une maîtrise de la musique qui n'est pas présente tout le temps, qui n'est pas oppressante, mais qui vraiment vient souligner des effets, enfin des choses très belles. Et le film est enfin porté par l'actrice principale, Margarita Molfino, qui est excellente dans son rôle, qui est très solaire et qui vraiment porte toute la deuxième partie du film de manière assez magistrale. Donc voilà, un gros coup de cœur qui mériterait d'être plus connu parce que du coup, il n'a pas été diffusé plus que ça en France.
Ah bah merci, en tout cas, ta chronique, elle donne trop trop envie, tu l'as hyper bien vendue. Donc franchement, je vais essayer de voir si je peux y aller avant que ce soit plus projeté. De mon côté, moi, je vais changer un petit peu de registre et malheureusement vous parler d'un film un peu moins intellectuel pour vous parler de Kung Fu Panda 4. Après vos trois chroniques, c'est assez drôle.
Il y en a pour tous les goûts, c'est parfait. C'est ça. La diversité. Pense qu'on peut trouver des choses très profondes dans Kung Fu Panda.
Exactement. Alors là, c'est...
Est-ce que tu vas nous démontrer, n'est-ce pas?
Alors, ça va plus être un coup de gueule, malheureusement.
Ah, coup dur pour...
Alors, donc c'est le quatrième opus de la saga qui a marqué évidemment toute notre enfance. Je sais pas si vous avez suivi la saga. Oui.
Ouais. J'y connais absolument rien. J'ai raté ma vie. On va dire ça.
C'est clair.
On se rattrapera.
Non, mais pour vous résumer un petit peu Kung Fu Panda, la saga en général, c'est de l'action, de l'humour. Avec des personnages étonnamment très bien construits. Enfin, on a des bons antagonistes, des bons personnages. Enfin, c'est vraiment bien. Avec un scénario et une animation toujours de qualité. Et donc, Kung Fu Panda, ça fait vraiment partie des pépites du studio DreamWorks. Après, évidemment, Shrek, Madagascar et autres pépites de notre enfance. Mais enfin, ça a beaucoup de succès. Ça a eu beaucoup de succès pendant notre enfance et ça a encore du succès auprès des plus âgés parce que c'est étonnamment assez mature, quoi. Enfin, mature. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'en est-il du quatrième opus? Donc, on suit l'histoire de Po, donc le fameux panda, qui est donc le guerrier dragon, qui protège la vallée de la paix et qui fait bien son job et qui finit par faire la rencontre de Jen, une renarde voleuse qui sort un petit peu de nulle part. C'est un nouveau personnage qu'on ne connaissait pas du tout. Et ils décident de partir à l'aventure ensemble pour vaincre la caméléone, donc la nouvelle antagoniste qui peut voler l'apparence et la maîtrise du kung-fu, des plus grands maîtres kung-fu. Donc on nous vend quand même quelque chose d'assez profond. Et surtout, on nous promet un adversaire qui combine vraiment tous les ennemis de tous les films précédents, puisqu'elle a la capacité vraiment de fusionner tous les pouvoirs qu'elle a volés. Donc c'est du lourd. Les points positifs du film, c'est déjà qu'on retrouve tous les bons codes des anciens Kung Fu Panda classiques, avec beaucoup de blagues, on rigole bien, c'est super léger, les personnages sont attachants, il y a des super belles scènes d'action, encore une fois, de combat, et ils ont bien misé dessus, enfin, c'est vraiment super. L'animation, elle est toujours aussi belle, toujours aussi esthétique, on a des petits passages en 2D pour un peu raconter la narration, tout ça, et qui mettent vraiment en valeur la culture chinoise et tout, donc c'est hyper joli. Donc j'ai passé vraiment un super moment, je suis allée le regarder à 21h40 après un cours avec une pote, c'était hyper léger, ça m'a fait trop du bien, vraiment, il fallait un truc un peu léger à ce moment-là. Mais bon, il faut quand même dire que le film, c'est pas non plus le meilleur de la saga, et je vais vous parler des points négatifs quand même du film, parce que c'est difficile de faire mieux ou même de rester au même niveau que les trois premiers, qui étaient quand même très très bien. Donc c'est quand même le quatrième, faut savoir peut-être s'arrêter un moment, peut-être qu'on aurait dû rester à une trilogie. Déjà, le personnage de la renarde qui a une place énorme dans ce quatrième film, elle est très sympa, mais elle débarque vraiment de nulle part et elle est pas vraiment attachante, enfin, c'est un peu insupportable. Et le scénario en lui-même, il est vraiment facile en fait. On a le fameux maître Shifu qui demande à Po le panda d'abandonner sa fonction de guerrier dragon sans vraie raison, en fait, c'est très bizarre. On lui demande de trouver un successeur, mais il n'y a pas de raison, c'est très chelou. Le combat final, on s'attend vraiment à un truc de fou, et finalement, il se résout hyper facilement, alors qu'on est censé quand même faire face au plus grand méchant de toute la saga, donc on est quand même très déçus. La méchante en elle-même, elle n'a pas vraiment de vraie motivation. Enfin, je vous parlais de construction des antagonistes dans les films précédents, ils avaient vraiment des motivations, c'était assez... assez bien construit, et là, en fait, c'est un peu bidon. Et le pire du pire, alors là, je vais vraiment parler pour les fans de la saga, mais où sont les 5 cyclones, en fait? Il n'y a pas les 5 cyclones dans le film. Donc, c'est les fameux acolytes de Po, donc la tigresse, entre autres, etc. Vraiment, c'était les légendes du film, des films précédents. Et là, finalement, on les retrouve qu'au générique de fin, quoi. Et ils parlent même pas, enfin, ils n'ont aucun dialogue. Alors, je sais pas si c'est parce que les voice actors étaient trop chers, ou juste le studio voulait changer, mais en tout cas ils ont eu le budget pour faire chanter Jack Black au générique de fin, donc bon, je sais pas si c'est une coupe budgétaire ou pas, mais bref, le film en lui-même, ça reste quelque chose qui se regarde en famille, entre amis, enfin moi j'ai passé quand même un bon moment, mais j'ai été quand même déçue parce que j'avais beaucoup d'attentes quand même pour le quatrième. Je suis une grosse fan de la saga qui a marqué mon enfance, donc voilà, je vous conseille quand même d'aller regarder, mais soyez pas trop déçus, quoi. Voilà. C'est bon, on a terminé nos chroniques de la semaine et maintenant je vous propose de passer à vos coups de cœur ou coups de gueule. Pauline, si tu veux commencer.
Ouais. Du coup, mon coup de cœur, parce que j'ai du mal à faire des coups de gueule, mais là c'était d'autant plus nécessaire que j'ai vu l'un des films qui m'a le plus marqué de ma vie. J'ai enfin vu Voyage au bout de l'enfer de Cimino, qui est un film sorti en 78. Ça faisait des années que je devais voir ce film, mais là je me suis dit, je me regarde les 3 heures ce lundi soir. Et c'est un film extraordinaire. Je vais avoir beaucoup de mal d'en parler parce que je suis un peu sous un espèce de choc esthétique dans tous les sens du terme. Mais pour la faire rapide, c'est un des plus grands films du Nouvel Hollywood. Rapidement, le Nouvel Hollywood, c'est dans les années 70 aux États-Unis et c'est des films qui viennent critiquer la société américaine, que ce soit avec des anti-héros en marginaux comme ce qu'on a dans Taxi Driver, dans Le Lauréat, ce genre de personnages-là, ou Five Easy Pieces, c'est vraiment des personnages dans l'errance. Et d'autres films qui sont soit des thrillers paranoïaques, donc comme Les Hommes du Président, qui viennent critiquer le Watergate ou... Les déboires des politiques, ou justement la guerre au Vietnam. Et globalement, on a le film de Kubrick, Full Metal Jacket, qui s'intéresse au sujet. On a Apocalypse Now, aussi, de Coppola, qui est un très très grand film aussi, et qui globalement est un film de guerre, que je trouve un film de guerre, c'est-à-dire qu'on voit vraiment sur le terrain la guerre se dérouler, on suit, c'est une réécriture de Conrad. Et globalement, on est au Vietnam. Et Voyage au bout de l'enfer, je ne m'attendais pas du tout à ne pas être au Vietnam pendant 2 heures sur 3, alors que c'est le cas. On est uniquement à l'heure du centre sur le terrain. Et globalement, c'est un film du coup en 3 étapes, une heure par étape. C'est le avant la guerre, le pendant et le après. Donc c'est assez classique. C'est vraiment un film extrêmement classique dans l'approche et dans la forme. Il y a énormément de parallèles, de construction parallélique dans le film. Je trouve que c'est un film vraiment qui, scénaristiquement, est ultra clair. Mais du coup, fonctionne très bien parce que justement, on suit 3 personnages. Donc tout fonctionne par 3. On suit 3 personnages, 3 parties. Avant la guerre, donc ils sont dans une communauté orthodoxe en Pennsylvanie qui travaille en fait dans une ville industrielle. Et globalement, pendant toute une première partie du film, on les voit vivre, célébrer un mariage... mais le tout avec la sensation qu'ils vont devoir tout laisser derrière eux parce qu'on sait qu'ils sont appelés du coup au Vietnam. Ces 3 personnages sont joués par De Niro, Christopher Walken, c'est un de ses premiers grands rôles, et John Savage, voilà. Et globalement, il y a aussi Meryl Streep qui a finalement un rôle qu'elle a participé à écrire sur le scénario. C'est ultra intéressant parce que globalement, elle avait un petit rôle normalement féminin qui était presque pas écrit, mais comme en fait elle s'est énormément investie dans le film, elle a participé à vraiment renforcer son personnage secondaire. Donc on les suit avant, on sent globalement toute cette première partie est à voir parce que c'est un film de façon à voir, mais il y a vraiment à s'apprécier parce qu'elle est ultra symbolique. On a déjà cette sensation d'enfer dans cette société industrielle avec pas mal de symbolisme du feu, etc. On a aussi pas mal d'utilisation de cadrage de branches qui viennent découper l'écran, qui annoncent il y a vraiment toute cette sensation de fougue mais qui sonne très faux. En fait, c'est une première partie qui sonne très faux. Et après, on a vraiment les scènes les plus fortes qui sont au milieu du film et qui durent pas très longtemps, c'est assez intense. Et globalement on suit ces 3 personnages qui sont en fait des chasseurs de base. C'est pour ça que le film s'appelle The Deer Hunter normalement en anglais. Nous on a traduit ça en référence à Céline, Voyage au bout de la nuit, mais voilà. Et on suit ces personnages en fait qui ont construit toute une communauté, tout un sentiment, on a vécu avec eux pendant une heure, donc on s'est attaché à eux. On les voit au Vietnam pendant une heure et on voit leur relation changer, on les voit dans une situation à l'opposé de ce qu'ils ont pu vivre dans la première partie où il y avait une cérémonie, un mariage et tout. Et c'est un film très, très fort parce qu'il y a toutes ces scènes de roulette russe. C'est un film qui est très réaliste parce que la violence, elle a été ressentie sur le plateau aussi lors du tournage. Ça, je pense que c'est intéressant d'aller voir un peu comment le film a été fait. Mais globalement, les personnages, les acteurs font leur propre cascade. Donc c'est incroyable. C'est un peu des Tom Cruise de l'époque. Robert De Niro, globalement, il a bossé son rôle en travaillant vraiment dans la ville dans laquelle il tourne dans la première partie. Mais en plus... globalement, ils ne se sont pas touchés pendant un mois apparemment sur le tournage, donc la crasse qu'on voit à l'écran est réelle. Et globalement, c'est beau parce que c'est un film qu'on peut voir comme une histoire de l'Amérique, en gros. Donc c'est ultra critique par rapport à la guerre du Vietnam, on montre la destruction d'un homme, mais c'est aussi un film sur un film d'apprentissage. En gros, c'est comment en fait on vit une expérience traumatisante. C'est vraiment sur les post-traumatic syndrome, là, c'est un thème très commun en soi, mais qui est extrêmement bien traité. C'est un des films qui traite le mieux du traumatisme de la guerre. Et du coup, je pense que c'est à voir, mais il faut se préparer psychologiquement à voir quelque chose qui peut être globalement traumatisant. C'est-à-dire qu'on peut voir des Tarantino, on peut voir de la violence, on peut... Voilà, mais là, c'est un cran supérieur parce que c'est psychologique, parce que c'est ultra, ultra difficile, parce qu'on voit comment des hommes sont changés par la guerre, littéralement, en l'espace de 3 heures. Et c'est une expérience folle. Donc, je conseille x 1000. Voilà.
Ok, bah trop trop bien, merci beaucoup Pauline. Clara, si tu veux continuer.
Alors du coup, moi j'aimerais bien parler d'un coup de cœur aussi. Donc moi ça concerne Blue Velvet de David Lynch, donc qui est sorti en 1986. Donc moi c'est le premier David Lynch que j'ai vu, enfin j'en ai vu depuis, mais du coup je me suis dit ok, tout le monde parle de David Lynch, oh là là, je suis cinéphile, mais pas trop regarder de films de David Lynch, faut absolument que je m'y mette. Et j'ai adoré, enfin, c'était incroyable. Du coup en fait ça retrace l'histoire de Jeffrey, donc un jeune homme qui retourne dans sa petite ville natale du Luberton pour aller voir son père qui a été victime d'une crise cardiaque et qui est du coup alité à l'hôpital, donc il faut qu'il lui rende visite. Et en fait, en chemin, il va découvrir une oreille humaine donc dans un terrain vague qu'il va décider d'amener à la police, voilà, pour qu'une enquête soit ouverte parce que ce n'est pas normal de trouver une oreille humaine normalement. Et il va faire la rencontre de l'inspecteur Williams et de sa fille, donc une jeune fille qui s'appelle Sandy. Donc on sent qu'il va développer une certaine affection pour cette jeune fille qui va être mutuelle. Et il va également commencer à développer une forme d'obsession en fait pour l'enquête que va mener la police concernant cette oreille humaine, pour savoir à qui elle appartient. Et du coup, au fur et à mesure de cette obsession qu'il développe pour essayer d'en savoir plus sur à qui appartient, enfin sur l'appartenance de cette oreille humaine, il va plonger dans l'univers d'une chanteuse de boîte de nuit, enfin d'un espèce de club de jazz qui s'appelle Dorothy Valence. Donc il va complètement plonger dans son univers, il va en fait s'incruster, mais littéralement dans son univers. Et il va plonger dans une espèce, parce qu'au début, moi ce que j'ai trouvé très très intéressant à voir, c'est que au début, le film illustre un peu une forme d'Amérique très idéale. Voilà, donc c'est un jeune homme, il vient rendre visite à son papa qui est malade, il fait la rencontre d'une jolie fille, tout va bien, tout le monde est très gentil, tout le monde est très souriant. Et d'un coup, on a une espèce de rupture avec justement l'entrée dans l'univers de cette chanteuse qui, au fur et à mesure du film, est de plus en plus sombre. Et on est profondément saisi en fait par l'étrangeté de l'univers qu'il va progressivement découvrir. Et on tombe des nues, en fait, plus on regarde le film, plus on va découvrir des choses horribles sur l'univers de cette femme. Et je trouve que le surréalisme de Lynch est vraiment particulièrement bien illustré dans ce film-là, qui mélange complètement, littéralement, le rêve et la réalité. On a des éléments qui sont complètement grotesques, qui sont très étranges à observer et qui sont en même temps insérés dans une réalité... Qui est très présente, et on est complètement perdu en fait dans un univers qu'il a vraiment très très bien élaboré. Enfin, je trouve qu'on est complètement perdu en fait dans la fantaisie de l'univers qu'il a essayé de mettre en place. J'ai l'impression que Lynch, j'ai l'impression que c'est bien éclaté vraiment à faire son univers. Je sens que en tout cas on sent vraiment la passion en tout cas qu'il a mis dans l'élaboration de cet univers qui est complètement fou et qui est de plus en plus horrible en fait. Enfin vraiment, on passe de scènes qui sont très gentillettes avec des personnages qui apparaissent comme très gentils, très bienveillants, très chaleureux, tout va bien dans le meilleur des mondes, à des scènes absolument horribles qui sont particulièrement dérangeantes, on va dire. On est vraiment dérangé. On regarde certaines scènes, on se dit, enfin on est mal à l'aise quoi. Je veux dire, on n'est pas bien, on a envie de skip la scène, d'accélérer, et surtout on est profondément, enfin moi en tout cas je sais qu'en regardant le film, j'étais constamment bouleversée parce que le réalisateur essayait de nous montrer, essayait de provoquer chez nous comme émotion. Et je sais que je suis passée par un panel d'émotions, mais énorme pendant toute la durée du visionnage du film. C'est rocambolesque, quoi. Je veux dire, on regarde le film, on sent une émotion, puis une autre. On se dit, attends, mais lui, il fait ça, mais waouh, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et on est en train de se demander si c'est vraiment réel ou si en fait c'est un rêve ou si... c'est la réalité qui est complètement branque-bolée. Enfin voilà, je trouve que c'était vraiment incroyable et je trouve que c'est vraiment une expérience cinématographique à faire en fait. Ce film, pour moi, il m'a vraiment, il m'a vraiment ouvert sur l'univers de David Lynch, que j'ai trouvé juste merveilleux et profondément enrichissant à regarder, et qui m'a vraiment, qui m'a bouleversée littéralement dans toute ma perception du cinéma. Je pense que c'est vraiment un film qui est important à voir pour se construire vraiment une culture cinématographique enrichissante, quoi. Voilà, moi je sais que j'ai vraiment été bouleversée par ce film, donc je vous conseille à tous les gens qui ont envie d'enrichir leur culture cinématographique ou juste d'être profondément bouleversée. Voilà.
En plus, Blue Velvet, c'est vraiment le sans doute le meilleur film pour commencer, ouais. Je trouve, la filmo de Lynch. En plus de Elephant Man, qui est le film aussi le plus populaire et peut-être le plus grand public, parce que voilà, mais on a beaucoup de thèmes de Lynch, mais c'est vrai que Blue Velvet, au niveau de la couleur même, on va sur son terrain-là, c'est et ça. C'est assez compréhensible par rapport à Mulholland Drive, où on est sur quelque chose d'encore plus critique, et encore plus avec Lost Highway, qui est vraiment là... commencer avec Lost Highway, c'est impossible, limite, pour commencer Lynch, mais Blue Velvet, je trouve qu'effectivement, c'est une très très bonne porte d'entrée.
Ça, et puis même, je trouve que même, esthétiquement parlant, les scènes sont magnifiques.
C'est très beau, c'est très plastique.
Ça, exactement, même au niveau de la musique, du coup, il y a la musique du film qui est très très connue, qui revient très régulièrement dans le film. Elle est tout le temps présente. Moi, je sais que je l'écoutais pendant une semaine après. Enfin, je veux dire, vraiment, elle me restait dans la tête. Je sais pas, ça marque énormément, quoi. L'esthétique du film, les couleurs, en fonction des scènes, en fonction des atmosphères, on a des contrastes de couleurs qui sont extrêmement présents, extrêmement forts. Et j'ai trouvé en tout cas que l'agencement des scènes, en termes de placement, de couleurs, est renforcé au fur et à mesure du film. Au début, c'est pas forcément quelque chose qu'on remarque énormément parce que les couleurs sont plutôt claires. C'est un truc assez, comme je le disais, assez gentillet, tout va bien, tout le monde est content. Et puis au fur et à mesure de la découverte, on va dire, de ce qu'il y a de plus étrange, on va dire, dans le film, l'esthétique se renforce. Exactement, cette scène, il y a vraiment un esthétique qui devient profondément dérangeante, quoi, et qui est très marquant, qui est vraiment très intéressant à voir, que j'ai beaucoup apprécié en tout cas.
Franchement, encore une fois, vous demandez bien. C'est vraiment un film qui me plaira, je pense. Enfin, oui. C'est totalement le genre que je kiffe. Donc, merci beaucoup. Pauline, tu veux continuer?
Ouais. Moi aussi, ça va être un énorme coup de cœur que, pareil, je voulais voir depuis très longtemps, pour lequel j'avais des hautes attentes, du coup, et qui a dépassé mes attentes. C'est La Piscine de Jacques Deray de 1969, avec Romy Schneider, Alain Delon et Jeanne Birkin. Donc un casting déjà 5 étoiles qui vend du rêve en tant que tel. C'est un film qui raconte l'histoire d'un couple, deux amants, donc Romy Schneider et Alain Delon, qui sont dans une maison de vacances sur la Côte d'Azur avec une énorme piscine autour de laquelle se déroule un petit peu toute l'intrigue. C'est un cadre hyper idyllique, hyper beau. Le film commence avec des scènes très sensuelles entre les deux. Enfin, on est vraiment sur quelque chose d'esthétiquement très travaillé, très joli, et avec un côté un petit peu onirique, qui rappelle aussi des souvenirs de vacances. Donc, un cadre très agréable, jusqu'au moment où arrivent un ami du couple et sa fille. Et à partir de là, une tension à la fois narrative et sensuelle va se développer entre les quatre personnages. Tension qui va devenir de plus en plus insoutenable jusqu'à une scène pivot du film que je vais pas révéler. Mais c'est un film qui est vraiment magnifique. Je trouve que faut le voir déjà pour son esthétique qui est très belle, avec la Côte d'Azur, avec le couple mythique Romy Schneider et Alain Delon, qui sont réunis par Jacques Deray dans ce film des années après leur propre romance à tous les deux qui s'est très mal finie. Donc de ce point de vue là déjà il y a une tension dans le casting qui fait écho à la tension dans l'histoire, et c'est juste sublime. Au-delà de ça, il y a une sur l'esthétique aussi, on a les tenues qui sont des tenues courrèges qui sont très très belles, et les coiffures de Romy Schneider, enfin tout ça est très travaillé, ce qui fait un film très beau. Et au-delà de ça, le récit est vraiment tendu et nous tient en haleine sur les 2 heures ou 2 heures et demie du film. Donc voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus, juste parce que j'avoue que j'ai vraiment été transportée par ce film. J'ai trouvé juste magnifique, et voilà, je saurais pas forcément l'argumenter plus, mais à voir à tout prix.
Merci beaucoup, franchement, ouais, carrément. Alors moi, je vais aussi vous faire un coup de cœur en restant sur l'animation, encore une fois, pour changer. Je vais parler surtout aux fans d'animé, malheureusement, mais je conseille vraiment l'animé dont je vais vous parler à vraiment à tous, parce que c'est C'est vraiment super. Donc je vais vous parler d'une série d'animation japonaise de 2008 qui s'appelle Michiko et Hachin. Donc qui a été réalisée par le studio Manglobe, donc qui a fait entre autres les chefs-d'œuvre Samurai Champloo, Ergo Proxy, Gangsta, enfin des animés qui sont très 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 beaux, qui sont pour adultes et qui sont très esthétiques, qui traitent de sujets assez sérieux, psychologiques. Donc c'est quand même un sacré studio et voilà, enfin ça promet forcément une pépite. L'histoire de l'anime raconte donc l'histoire de Michiko, donc qui est une femme sublime, qui est voleuse, qui est assez brutale et qui est recherchée par les autorités. Et donc Hachin ou Anna, qui est une gamine de 10 ans, qui est orpheline en fait et qui se fait un peu exploiter par sa famille adoptive. Et en fait, elles vont se retrouver autour d'un point commun qui est Hiroshi. Donc qui est en fait le père d'Anna qui l'a abandonné à sa naissance et en fait le grand amour de Michiko qui l'a aussi en fait abandonné quand elle était jeune. Donc merci Hiroshi, c'est sympa. Donc le film en lui-même en fait, l'anime en lui-même, c'est un road trip en moto dans le Brésil profond. Donc c'est assez dingue comme cadre je trouve pour un anime japonais. Où vraiment tout va se tourner autour de cet homme mystérieux qu'on ne connaît pas. La musique, elle est sublime, la chaleur du Brésil, elle est sublime, encore une fois. On a les fêtes, la samba, on a aussi, à l'inverse, tout l'univers des favelas et des gangsters brésiliens, de la pauvreté et des gamins qui sont dans la rue et tout. Donc c'est vraiment sympa. Et en fait, dès le premier épisode, je me suis dit, mais ça me fait super penser à Lupin the Third ou Edgar de la Cambriole pour les plus vieux qui nous regardent, enfin qui nous écoutent. Et en fait, je me suis renseignée et en fait, oui, la chef de réalisation de l'animé a bossé en fait sur Lupin the Third. Donc on retrouve totalement les courses-poursuites, le jazz, le voleur, mais qui est quand même au grand cœur, qui est gentil, etc. Donc moi, c'est un genre d'animé que je kiffe particulièrement, donc c'est un gros gros coup de cœur qui diffère totalement des autres animés un peu traditionnels qu'on a l'habitude de voir. Et finalement en fait, ce qui est aussi important, c'est la réflexion qui est assez géniale de l'animé en lui-même. En fait, Michiko et Anna, donc les deux filles, les deux personnages principaux, vont se construire une image idéale de Hiroshi, donc du père et du petit ami. Elles passent vraiment tout leur temps à le décrire, à le chercher comme vraiment un peu une chasse au trésor, alors que finalement, bah, on ne sait pas grand-chose de lui, on ne le voit presque pas dans l'animé. Elles vont prendre des risques, elles vont parfois frôler la mort juste pour le retrouver, et en fait, sans vraiment spoiler, bah, leurs espoirs, elles vont être finalement déçues, quoi. Je ne veux vraiment pas vous spoiler parce que la fin est assez géniale. L'anime en lui-même, il montre que ce qui compte, c'est pas le but final, mais c'est vraiment tout le voyage, toute la route parcourue qui a permis aux filles donc de se rencontrer, de se rapprocher et de construire presque une relation de mère et fille. Elles sont pas vraiment mère et fille, mais enfin leur relation est vraiment attachante et pour le coup très réelle parce qu'elles font que s'engueuler en fait et c'est ça qui est vraiment très très beau. Donc voilà, c'est un animé avec un vrai message qui met en valeur la solidarité féminine et aussi beaucoup l'amour. Donc voilà, c'est un animé que je conseille particulièrement. Donc foncez. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout, d'être restés pour ce 16e épisode de Popcorn Sucré. Et puis à la semaine prochaine.
Salut! Radio. Radio. Radio Germaine.